Je suis né au Gabon, donc vous voyez ma couleur. Donc j'ai du sang africain, gabonais, dont je suis fier et que je découvre, et du sang européen de par mon père, Jacques Land, donc que j'honore parce qu'il aurait pu, au début, abandonner son fils. Et c'est ce qu'il a dit au départ. Je ne suis pas venu en Afrique pour avoir un enfant noir. Et si vous voulez, c'est à ce moment-là où Dieu a touché son cœur. Et il est revenu et il a dit cette parole magnifique qui est devenue gravée dans mon cœur, la parole d'un père, c'est « Je n'abandonnerai pas mon sang. Je n'abandonnerai pas mon sang. » Et donc, la vie, lui, là, donc j'étais séparé en fait de ma mère gabonaise à l'âge de 15 mois. C'était pas facile, c'était litigieux, mais bon, enfin, j'étais séparé de ma mère gabonaise à l'âge de 15 mois. Et pour tout vous dire, je ne l'ai rencontré qu'il y a un peu moins de 10 ans maintenant, j'avais 45-46 ans. Mais Dieu n'oublie pas nos racines. Et donc, c'est à l'âge de 7 ans où la première fois, la parole de Dieu est venue en moi. Donc pendant toute mon enfance, j'ai aucun souvenir puisque j'étais élevé à Alès. Ma tante était missionnaire. Elle travaillait avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler, docteur Schweitzer, etc. Donc elle était missionnaire au Gabon et ensuite elle a ouvert une maison où elle recevait des enfants gabonais. Et mon père, quand il a décidé de me garder, il m'a laissé avec ma tante, qui était une femme de prière, et une femme qui avait rencontré le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était venu sur elle, et elle avait donné sa vie, elle vivait entièrement pour le Seigneur. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est que quand elle est arrivée au Gabon, le Saint-Esprit venu sur elle, ne savait pas ce que c'était. Et quand des Gabonais lui parlaient, elle leur répondait dans leur dialecte. Alors que les Gabonais entre eux ne comprennent pas leur dialecte. Un jour, des sorciers sont venus la voir et lui ont dit « Ça fait une semaine qu'on vous donne du poison qui tue un éléphant en une heure. On veut connaître votre Dieu. » Et c'était une simple femme. Et elle m'a élevé, elle a prié sur moi, elle a été remplie du Saint-Esprit. Et quand elle a dit à la mission, elle a fait un rapport, je parle en langue, etc. Les gens de la France ont dit, surtout arrêtez ça, il ne faut pas. Bon. Et donc elle m'a marqué, elle a marqué mon enfance. Et c'est maintenant que je saisis tout ce qui se passe dans mon cœur, voyez-vous. Parce qu'elle m'a marqué tout petit. À l'âge de 7 ans, je suis donc, mon père est venu me chercher, je suis au Gabon, et j'ai mon oncle, Daniel, qui fait sa coopération là. Et c'est lui qui, la première fois, me parle de Dieu. Ah, regardez, ils ont réussi. C'est pas magnifique? On peut les applaudir. Donc, on va voir si ça marche maintenant, mon petit truc, là, mon gizmo. Hop. Vous voyez quelque chose ou pas?
Ah non, ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas?
C'est...
Ah d'accord, mais vas-y. Clique. Je te fais signe. Voilà. Donc ça, c'est notre famille. La plupart, vous nous connaissez, d'accord? Donc, nous sommes, voilà, 5 enfants. Vas-y, avance. Voilà, donc pasteur à l'église La Source, Emma, depuis 2 ans et demi maintenant, hein, Antoine, et une joie de vivre ce temps dans cette église merveilleuse, continue. Voilà, donc je vous fais signe, on se fait un signe ensemble ou... Voilà, ça te va ça comme signe, regarde. Ça te va comme ça, comme signe. Qu'on soit en phase ensemble, d'accord. Donc on a le groupe M&M où on chante, on va dans les bars, là on va jouer pour le club de foot, et donc ça touche les jeunes et tout, et donc notre batteur c'est nos noms de scène, c'est Jay, donc Julien qui est là, il est où Julien? Ouais. avec ses parents qui ont suivi depuis le début. Merci pour votre fidélité aussi. Et donc voilà, c'est de donner en famille la vie. Vas-y, continue. Voilà, ça c'est mon travail. Je suis aussi coach. Je travaille dans les entreprises. Ben, là, dernièrement, j'étais en Allemagne pour Airbus. Je peux vous dire que Valérie est venue avec moi parce que j'ai dû prendre 8 heures de route parce qu'à cause du vent qu'il y a là, les avions étaient annulés. D'accord ? Ouais. Donc voilà, donc c'est mon entreprise. Voilà, je gère ma propre société et j'avance. Vas-y, continue. Mon dernier grand diplôme, ben, je l'ai eu l'année dernière. En tant qu'INSEAD, c'est un institut prestigieux devant Harvard et aujourd'hui je suis reconnu comme coach exécutif au niveau international et ça je remercie le Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi ça a marqué, ça marque ma vie, la vie de mes enfants et de ma famille. Vas-y, continue. Et donc je suis issu d'une famille, d'une généalogie où mon modèle, vous voyez, c'est mon arrière-arrière-grand-père, il a servi l'évangile, c'est lui qui a mené le basketball à Bordeaux pour évangéliser, pour vous donner, c'est quand même incroyable, et il est mort au champ d'honneur, et quand il est mort, voilà pourquoi j'ai voulu donner 5 ans aussi de ma vie au drapeau, parce que mon arrière-grand-père a été remarquable au champ d'honneur, Et les gens, ce qui est marqué dans la Bible, dans son livre, de capitaines, des colonels qui racontent qu'il était brancardier et au milieu des balles, il allait chercher, mais il sauvait autant les Allemands que les Français. Il ne regardait pas. Et à l'âge de 33 ans, il a été tué à mi-recours. Et donc, moi, ma marche, donc je commençais à vous le dire, donc j'étais baptisé enfant. Puis baptême d'immersion à l'Assemblée de Dieu en 1981. Là, le Seigneur touche ma vie, mais j'avais 18 ans à l'époque, vous voyez. Et en fait, pendant 4 ans, je quitte l'Évangile parce que je me dis, ça ne marche pas. Et je me mets à étudier toutes les religions. Et je travaille toutes les religions et ma vie devient, et en même temps je rentre dans la musique et ma vie devient boîte de nuit, de tout ce que vous voulez. Et c'est en 1985 où Jésus vient me sauver alors que j'étais devant un tribunal pour vol de voiture en Angleterre. Et l'Angleterre, Scotland Yard, était en train de verrouiller ma vie. Et je devais être interdit de venir en Angleterre. Et là, j'ai crié à Dieu. Je me suis mis à genoux. En haut vivait la fille avec qui je vivais. Et je me rappelle, je me suis mis à genoux. Et j'ai dit à Dieu, j'ai tout essayé pour t'aimer. Ça ne marche pas. Je ne fais que te haïr. Je hais tout ce qui est de toi. Je n'arrive pas à rentrer dans ta vie. Mais Satan m'a enfermé. Alors viens à mon secours. Je ne sais pas comment tu fais, mais viens à mon secours. Et là, mes amis, le Saint-Esprit est venu. Et j'ai vu une action divine se manifester. Le jour de mon tribunal, il y avait 3 juges. À cause d'un des juges, je n'ai pas fait de prison. Ça a été enlevé parce qu'il m'avait vu jouer en boîte de nuit le décembre d'avant et je ne savais pas qu'il était le père du groupe pour qui on jouait. Il savait que je n'étais pas un méchant et là le Seigneur m'a fait grâce. Et à l'époque, je reviens, c'est 1985, mon père me dit, alors, comment tu vis la foi? Je dis, papa, je regrette, je ne peux pas encore te dire pardon. Mais je regrette d'avoir porté la main sur toi. Je regrette quand je te voyais me chercher partout. Et moi, je partais. Je regrette, papa. Mais je ne sais pas aimer Jésus. Je ne sais pas. J'ai essayé. Et dans la nuit, mon frère a reçu une parole de Dieu. Et dans la nuit, il me l'a raconté plus tard. Une main est venue sur lui. Et il combattait contre cette main qui ne voulait pas que cette parole me soit donnée. Et le lendemain, il vient me voir. Et Fred, vous savez, c'était pas quelqu'un qui c'est quelqu'un de calme, Fred. Et quand il me voyait avec mes cigarettes ou mes pétards, la famille était complètement retournée. Mais mon frère, il m'aimait. Mais ce jour-là, il me regarde avec une fermeté dans les yeux que je ne connaissais pas. Et il me dit, voici une parole. J'ai reçu cette parole et je te la donne. Le Seigneur me dit de te dire que tu es un chrétien déçu. Et il m'a dit de te dire que tu n'es pas en colère contre Dieu, contre Jésus. Tu es en colère contre l'image qu'on t'a donnée de Jésus. Ça a été une bombe. Déjà que le Seigneur me dise, je suis un chrétien déçu. Et à ce moment-là, il m'a dit des choses que je ne peux pas vous dire, mais le Seigneur revoyait ce moment où à l'âge de 7 ans, je lui ai donné ma vie. Mes amis, ne négligez pas vos enfants. À l'âge de 7 ans, le Seigneur m'a rappelé, je pleurais sur mes péchés. Il n'a jamais oublié, lui. Moi, j'avais oublié. Et après, cela, ce soir-là, je montais à la colline derrière chez moi. Et là, j'ai fait un pacte avec Dieu. À l'époque, c'était la seule chose que je pouvais faire. Mais j'ai dit à Dieu, je vais aller 100% avec toi. Mais si tu ne me donnes pas la joie, ne viens plus frapper à ma porte. Parce que dans tout ce que j'avais connu, je savais que la joie n'est pas de ce monde. Et j'avais dit, Seigneur, j'accepte. Je ne t'aime pas en ce moment, mais j'accepte d'avancer. Mais si je n'ai pas la joie, ne viens plus frapper à ma porte. Et donc j'ai commencé à séparer. Parce que Dieu me disait simplement, enlève. J'étais déjà pardonné de tout ça. Mais tout ça t'empêche de me rencontrer. Tout ça te bloque. C'est pas moi qui bloque, c'est toi. Enlève. Et donc j'ai commencé à enlever. Je me suis séparé de la fille avec qui j'étais. J'ai ma batterie, je l'ai vendue. J'ai quitté tout ce monde. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire quelque chose alors qu'avant, je n'étais pas du tout dans ce chemin-là. Je vais m'engager. Pourquoi ? J'avais besoin de discipline. Donc j'ai pris le camp le plus dur. Il est encore en Allemagne, un camp semi-disciplinaire. J'ai dit, je vais là-bas. J'ai besoin de recadrer ma vie. Et juste avant de partir, je me retrouve dans un riche des assemblées de Dieu qui étaient à Pentecôte, à Chambon-sur-Lignon et là-bas. J'écoute, mais ça ne me fait rien. Et je suis là, ça ne me fait rien, mais j'écoute. Et à un moment donné, il y a un homme qui parle sur la croix. Et j'entends exactement ce que mon oncle m'avait dit quand j'avais 7 ans. Je n'ai pas pu retenir. Je n'ai pas pu retenir. Je suis allé devant, on était au milieu, devant 2000 personnes. J'avais pas besoin d'un appel. Parce que cet appel, il était là. Et je me suis avancé. Je me suis mis à genoux. Et je suis resté 2 heures. Je ne bougeais plus. Et j'étais devant mon père. Il m'a aimé. Il m'a pardonné. Mais c'est la première fois que je ressentais l'amour d'un père. Et ça a été le début d'un chemin. Ma première église, c'était l'armée. Parce que vous savez, toutes les églises ne m'acceptaient pas. À l'époque, vous m'aurez vu. J'avais de Santiago, les trucs, enfin, j'étais complètement offset. Mais je ne comprenais pas. Mais le Seigneur m'a dit, je vais mettre du temps dans ta vie. Et le Seigneur a préparé un premier temps. Et pendant 4-5 ans d'armée, j'ai travaillé la Bible d'une autre manière. Et puis, l'armée me redonne un engagement. Et là, je dis, je sens le Saint-Esprit qui dit, non, arrête, 1989, non, arrête. Et pourtant, j'étais au niveau des rances. Je représentais mon renseignement quand on allait interroger des officiers soviétiques qui passaient de l'autre côté. Parce qu'à l'époque, c'était Pancharlie, c'était, vous savez, c'était ça la vie à l'époque. Et puis, le Saint-Esprit me dit non. Et je me retrouve devant le colonel. Il me dit, monsieur Land, pourquoi vous avez dit non ? Je venais de faire le chant du régiment. Après la Marseillaise, on chantait mes régiments. D'ailleurs, mes collègues, ils m'ont voulu pour ça. Et vous savez, le Seigneur, il sait tout. Et c'est sa vie qui met en nous, c'est pas la nôtre. Et j'ai quitté l'armée. Et mes copains qui se moquaient de moi, qui me disaient, oh, tu perds tous tes privilèges. Eh bien, vous savez quoi ? C'est l'année où le mur de Berlin est tombé. Et devinez quoi, mon régiment, qui était le dernier régiment napoléonien, le drapeau s'est retrouvé aux Tuileries et mes copains, ils ont perdu tous les privilèges. Mais moi, j'entrais dans une nouvelle vie parce que j'écoutais la voix du Seigneur. Et là, le Seigneur m'a payé une formation, je suis parti aux États-Unis, je suis devenu pilote. Et si vous voulez, c'est pour ça que je voulais rapidement vous parler du vent, parce que vas-y, envoie, parce que là, vas-y, envoie. Envoie, ça c'était mes travaux, voilà, ça, envoie. Voilà, Voilà, voilà. Avant, reviens. Voilà, tu peux cliquer sur ça. Parce que ça, je voulais vous le montrer. Vas-y, clique. Ça marche ? Si tu cliques dessus, normalement, ça donne une vidéo. Il faut que tu cliques dessus. Ça marche pas ? Bon, mais c'est pas grave. Vous voyez, on prépare des trucs, mais bon. Ce qui est important dans ce que je voulais vous montrer, c'est que vous aider à comprendre où on en est dans le temps de Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu exactement au temps de Dieu. Mais il est arrivé au moment où Dieu a dit « on arrive dans la fin des temps ». Quand on regarde humainement, on dit « attends, c'était le temps des Romains, ils ne connaissaient pas le smartphone, ni ce qu'on connaît aujourd'hui ». Et en fait, on a l'impression que parce qu'au niveau technologie, on est monté sur la Lune, on a eu, vous savez, les smartphones, etc., qu'on est dans l'apogée de l'humanité, dans la réalité. Si vous voyez cette vidéo, vous tombez par terre, c'est une vidéo faite par les musées, ils montrent que la Terre, si vous voulez, pendant toutes ces années, a eu à peine 170 millions de personnes. Et on a eu le 1 milliard de population, grosso modo, jusqu'à 1800, arrivé le côté, vous savez, les révolutions industrielles. Puis tout d'un coup, on passe à 2 milliards. Et dans les 20 dernières années, on est passé à 9 milliards. La courbe croissance, elle est comme ça. C'est-à-dire que quand on parle du réchauffement de la planète, vous le savez, quand vous êtes deux dans une pièce, il fait froid. Quand vous êtes 10, il fait plus chaud. Voilà. Donc, les scientifiques le savent. Les politiques ne veulent pas le dire. Ils sont confrontés à quelque chose dont Jésus disait, Noé, dans les derniers temps, il sera comme Noé. Les eaux vont monter. Noé, au temps de Noé, qui était le premier jugement de Dieu sur la terre, les eaux sont montées, on n'a rien pu arrêter. Et depuis maintenant, les eaux ne peuvent pas arrêter. On ne peut pas arrêter la croissance de la population sur la Terre. On ne peut pas arrêter la fin des espèces. On ne peut pas arrêter. Moi qui suis pilote, je vois des choses que je n'aurais jamais imaginées. Le courant du jet stream qui est en train de descendre. Jamais on n'aurait imaginé ça. Notre oxygène est à peine 13 kilomètres. Et cet oxygène tient à peine pour le monde. Et vous voyez des choses comme jamais. Un avion maintenant, avec la toute puissance qu'il a, il doit prendre plus de temps pour venir des États-Unis en France, vous savez, à cause du jet stream qui descend. Alors qu'avant, pas de problème. Scientifiquement, l'eau monte. L'eau monte, on ne peut plus arrêter les mœurs. On ne peut plus arrêter, tout monte. Et on essaye de faire cela. On fait des commissions, on fait des trucs dans la réalité, mes amis. On est à la fin. Et quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour ce monde, il se réfère à ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais Dieu ne parle pas de ce monde et c'est ça la grande confusion. Parce que si Dieu parlait de ce monde, pourquoi il le détruit ? Lisez Apocalypse. Que dit Jésus ? Cette terre va disparaître. C'est Jésus qui le dit. Quand Jésus prie son Père avant de mourir sur la croix, il dit « Père, je ne te prie pas pour ce monde ». Quand il est devant Pilate et que Pilate lui dit « Alors tu es roi ?» Que dit Jésus ? Jésus lui dit « Oui, je suis roi. » Mais écoute bien Pilate, si j'avais été de ce monde, tu n'aurais pas pu mettre la main sur moi. On est bien loin de l'homme qui se laisse faire. Non, Jésus est un roi. Il est rempli de force et de puissance. Mais il sait de quel monde il se bat. Il se bat pour le monde de son Père. Et il le dit, dans Jean chapitre 3, il dit à Nicodème, Nicodème écoute-moi bien, si tu ne nais pas de nouveau, t'entends Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et Nicodème qui est un scribe, un inspiré de la Bible, il comprend que Jésus est en train de lui dire, oh, quelque chose de naturel. Mais Nicodème dit, attends Jésus, tu me dis qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère ? Et Nicodème et Jésus lui dit, Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il vient quelque chose de nouveau, Nicodème. Avance la diapo. Avance, on a passé là. Vas-y, avance. Ça, c'était là où j'ai appris le... Et là, tu ne peux pas lancer les trucs, alors ? Vas-y, avance. Si cette diapo a avancé, vas-y. Voilà. Le vent souffle où il veut. et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Vas-y, continue sur notre diapo. Écoutez bien ce que Jésus dit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jésus est en train de déclarer qu'il y a une nouvelle humanité qui arrive. Il y a une humanité qui est née de notre humanité, voilà, de toute chair, et Dieu ne peut pas arrêter cette humanité. Mais il y a une humanité qui est née de l'Esprit. Et mes amis, c'est de ça que je veux vous parler. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, on est dans le vent qui souffle. Mais Dieu a un vent nouveau pour cette humanité. Il y a un vent qui veut révéler, et il faut que cette humanité commence à être réveillée. Alléluia! Vas-y, avance, mon pote, envoie la musique. Et donc, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est... C'est clair, oui ou non? Point. Et quand vous écoutez Paul, dans 1 Corinthiens 15, il va vous dire, il y a le premier Adam, première humanité, et il y a le dernier Adam, qui est Christ. Donc Dieu est en marche. Mais ce qui est important, c'est de quel monde Jésus parle. Et je vais vous le lire. Ça, je veux le lire. Je ne voulais pas le noter. Je dis ça, je vais le relire. Ça, je vais le lire. Parce que c'est tellement impressionnant. Et Jésus dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. C'est qui est descendu du ciel? Bravo, vous pouvez y aller. Qui c'est qui est descendu du ciel? Vous avez 20 sur 20, donc n'ayez pas peur, hein, allez-y. Hein. Donc, alors, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je le redis, parce que j'ai vu que vous n'avez pas saisi. Il faut prendre du café le matin, moi, c'est ce que je... Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors maintenant, je vous pose une question. Si c'est Jésus, qui c'est qui est dans le ciel? Parce que le temps qui est utilisé, c'est le présent. J'ai fait 2 ans d'hébreu. Le présent n'existe pas en hébreu. Le seul à utiliser, c'est Christ. Mais là, il est clair. Il dit, la seule personne... Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mes amis, quand vous lisez les évangiles, vous découvrez que plusieurs fois Jésus s'appelle le Fils de l'homme. Et il s'appelle aussi le Fils de... Ça va, vous n'avez jamais posé la question pourquoi une fois il s'appelle Fils de Dieu, l'autre fois il s'appelle le Fils de l'homme. Elle est où la femme au fait? Je peux vous dire qu'en ce moment ça ferait discuter. Oh! Vous n'êtes pas un peu misogyne, hein, les chrétiens, là? C'est toujours fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Et la femme, elle est où? Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas lire la Bible avec nos définitions. Il faut la lire avec la définition de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré d'abord Moïse, d'accord? Quand Moïse est chassé d'Égypte, Dieu est en train de faire quelque chose de formidable. Parce qu'il amène à son beau-père, comment ça s'appelle, Jéthro. Eh bien, et Jéthro, il fait partie de la première société, la première civilisation à connaître l'écriture. Et donc Dieu utilise tout le savoir de Moïse pour être le premier écrivain de la Bible. Et Moïse a écrit les 5 livres, le Pentateuque, d'accord? Les 5 livres. Et quand on écrit les 5 livres, quand on arrive au nom de Dieu, eh bien, Dieu ne se dit pas Dieu en hébreu. Il faut se rappeler d'où on vient. Ça vient de l'hébreu, hein, au cas où. C'est important de le savoir. Dieu se dit en hébreu Elohim. Ça veut dire les dieux. Mais le verbe est au singulier. Et quand vous lisez la première parole, la première phrase de cette écriture, la Genèse, en hébreu c'est Bereshit, ça veut dire au commencement. Bereshit, Bara, Elohim, Veharetz. Alléluia. C'est au commencement, les dieux créa. Donc nous en français, on ne le voit pas. Nous en français, on voit Dieu créa. Et dans notre tête, Dieu est tout seul. Dans la réalité, Dieu n'est pas tout seul. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et les dieux ensemble créa. Alléluia. Et ils ont ensemble mis ce projet en œuvre, que l'homme soit à l'image de Dieu. Et donc, quand l'homme crée la femme, quand Dieu crée la femme, ça c'est un film, l'homme crée la femme. Quand Dieu crée l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme, voilà, et c'est devenu par habitude, voilà, Dieu voulait que l'homme se marie, pas du tout. C'était pas le plan, c'est pas l'image, ah l'homme est tout seul. D'ailleurs, si vous vous mariez parce que vous êtes seul, oubliez, c'est un gros problème hein, aujourd'hui. Les mariages qui tiennent pas, c'est justement ceux que j'ai dit, je me marie parce que je suis tout seul. Et certains disent, vous mettez tout seul comme la compagnie, alors choisissez, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est pas la bonne, c'est pas ça le mariage, d'accord. Mais quand Dieu dit, c'est les dieux qui parlent ensemble, ils disent, si l'homme est tout seul, il n'est pas dans notre image, on est trois. Donc il faut créer à notre image. Quand Dieu est en marche, il est en marche dans la création. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on s'attend à ce qu'Ève arrive dessus. Pas du tout, c'est d'abord des guenons, des éléphants, et Dieu est en train d'écouter le cœur de l'homme. Et, qui est ta femme? Et il perce, il met l'homme à mort, quand il voit sa femme créée en elle, en lui, il perce son côté et il lui apporte. Et quand l'homme voit, le mot qui est utilisé, c'est « isha ». En hébreu, « ish », c'est « homme ».« Isha », c'est « femme ». Enfin, « eau de mes eaux » et… Oh, vous êtes… Il y en a des mariés là ou pas ?« Eau de mes eaux » et… Qu'est-ce que vous voyez en premier ?« Mes eaux » ou « ma chair » Voilà. Il n'a pas dit « chair de ma chair » et « eau de mes eaux ». Non, l'ordre est très important. Parce qu'il montre que c'est d'abord un exaucement de prière spirituelle. Alléluia. Les eaux dans la parole de Dieu, c'est l'esprit. Et vous savez ce qui se passe? Des milliers d'années après, un homme sur la croix, le Adam, est en train de mourir. Et un officier vient et plante à sa côte une lance. Mais à la résurrection, sort de cet homme l'Église. Alléluia! Et Jésus, quand il crie, tout est accompli. En hébreu, c'est le même mot que Adam des milliers d'années qui dit « Enfin !» C'est exactement le même mot. Tout est accompli. Alléluia! Et je veux vous dire que le Seigneur est grand. Il veut libérer son Église. Il y a un vent nouveau. Amen. Alléluia! J'en suis où? J'en suis là. Alors, ah oui, c'est vrai que ça ne marche pas ça. Tu peux avancer, s'il te plaît? Et donc, la Bible nous montre, alors j'accélère, la Bible nous montre qu'il y a d'abord un vent contraire. Vous avez vu comme ça a soufflé là? Nous, notre store, il a explosé, etc. Matthieu 14, il y a un tournant dans cette histoire. Alors, je vous le raconte. Vas-y, tu peux envoie la sauce. Dans Matthieu 14, vous avez les disciples, Jésus oblige les disciples à quitter la berge, d'accord? Et il dit, vous allez de l'autre côté, ok? Mais moi, je ne suis pas avec vous. Et hop, Jésus monte, il va dans la montagne, il prie avec son père. Et puis dans la nuit sombre, hein, il y avait l'orage, la tempête, il voit que ses disciples sont en train de mourir, en train de couler parce qu'il y a un vent contraire. Et Jésus descend, il marche sur l'eau. Et il vient vers ses disciples. Au début, il fait semblant de passer. Mais la Bible nous dit que à ce moment-là, le disciple, quand il le voit, il pense que c'est un fantôme. Ben oui, attends, t'as essayé de marcher sur l'eau, mais avec les grandes palmes, ça ne marche pas. Hein. Maintenant, t'as des paddles, mais on n'a pas vu Jésus marcher sur l'eau avec des paddles. Il marchait sur l'eau. Et ce n'était pas marcher sur l'eau, sur la piscine. C'était des vagues. S'ils sont en train de mourir, ils sont comme ça. Ouh, ouh, ouah. Et la Bible nous dit, ils sont mis à hurler, parce que ce n'est pas de notre nature. Ils ont cru que c'était un fantôme. T'as déjà vu un fantôme? Moi non plus, je n'ai pas envie d'en voir. D'accord? Parce que je veux me mettre à hurler. Parce que c'est dans ta nature, c'est une autre création, c'est pas ton truc. Et ils ont vu ça. Et Jésus dit, calmez-vous. La paix soit avec vous. N'aie pas peur. C'est moi. C'est toi. Et Pierre a une prière, je l'appelle la prière la plus débile de la Bible. Il dit, Seigneur, si c'est toi, est-ce que je peux faire du roller coaster avec toi? Je peux marcher sur l'eau? Mais j'imagine Jean et les autres, ils disent, mais Pierre, on n'en peut plus, on meurt! La vraie prière, c'est « Seigneur, sauve-moi !» Voilà, Pierre, la prière qu'il faut faire. Ben non, Pierre, c'est pas ça, ça lui vient même pas à la tête. Il est en train de mourir, mais la seule chose qui passe, c'est faire Disneyland. Écoutez, c'est quand même incroyable. Donc, c'est... Et Jésus lui dit « Viens !» Viens, Pierre. Et imaginez déjà Pierre pour sortir de la barque. Et puis d'un coup... Le premier permis de marcher sur l'eau de la terre. Julien, il a passé son permis de natation, d'accord? Mais là, je sais faire la planche, mais je ne sais pas faire l'homme debout. Oui. Et Pierre, il marche. Jusqu'au moment où ses yeux, c'est pas marqué, il voit la tempête, il voit le vent contraire. Il coule, le Seigneur le rattrape. Mes amis, il y a une vérité profonde qui est là et qui est liée à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que quand tu vois Jésus, c'est pas que tu le calcules même pas. Quand Jésus se révèle à toi et que tu le vois, tes prières changent. Elles deviennent des prières du ciel. La tempête d'avant, si vous tournez la page, vous avez la Bible, hein, vous pouvez, selon, tourner 3-4 pages en arrière, ça représente quand même quelques mois dans leur vie. Pierre et Jésus dorment dans la même barque. D'accord? Et Jésus, il dort dans la tempête. Il faut y aller. Hein. Et Pierre se lève au milieu de la tempête. Les disciples ont dû bousculer Pierre. On meurt. On n'en peut plus. On a tout fait. Et au milieu de la tempête, il va réveiller Jésus. Jésus, on meurt. Et Jésus qui se réveille au milieu d'une tempête. Je ne sais pas comment on fait pour se réveiller au milieu d'une tempête. Je ne l'ai jamais essayé. Et il arrive, il se lève. Le vent, tais-toi, la mer, calme-toi. Boum, et on peut prendre son café. Et Jésus dit, mais pourquoi vous avez eu peur? Qui est cet homme? Jean de peu de foi, qui est cet homme? Moi, la première chose qu'on m'a appris quand je suis arrivé au Seigneur, c'est quand tu as des problèmes, prie Jésus. Pierre a exactement fait ça. Et Jésus lui dit, pourquoi tu m'as prié? Oui ou non? Parce que Jésus est en train d'apprendre quelque chose à ses disciples. Parce que Jésus est en train de préparer ses disciples à devenir beaucoup plus grands que simplement prier un Dieu lointain et rester dans la même création. Il est en train de les préparer à devenir la création en Christ. Donc il doit les former. Si Jésus était venu pour cette terre, là il aurait dit, Pierre, tu as bien fait, je serai toujours là pour toi. Mais souvenez-vous, juste avant la croix, quand il parle avec ses disciples, il leur dit, viens le moment où je ne dis pas que je prierai le Père pour vous. Ça, c'est fini. C'est vous en direct qui passez. Et je vois beaucoup de chrétiens qui quittent le milieu catholique, comme moi, le milieu protestant, et qui mettent Jésus un peu comme une icône. Oh, Jésus fait ceci. Oh, Jésus fait cela. Oh, Jésus. Non. Jésus dit, je ne veux pas être comme ça. Je ne suis pas ça. Et là, il le dit d'abord à cette femme, à la résurrection, qui veut le toucher, Rabouni. Non, 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 c'est fini, ça. Je ne suis plus de ce monde. Quand Lazare est ressuscité, il est resté dans le même monde. Mais Jésus lui-même, quand il est ressuscité, il n'est plus de ce monde. Il n'est plus de cette création. Il le dit, il vous le dit, il me le dit. Et il dit aux disciples, je vous l'avais dit, je ne suis plus de ce monde. Il passe à travers le mur. Si Jésus voulait rester dans ce monde et sauver ce monde, il serait resté exactement la même personne quand il sort du tombeau. Mais ce n'est pas la même personne. Il reçoit un nom nouveau qu'il a encore gardé mystérieux. Et quand vous lisez dans Apocalypse, il dit, je donnerai mon nom nouveau, je le ferai connaître à celui qui vaincra. Mes amis, on est appelé à bien plus que de vivre sur cette terre. On est appelé à rentrer dans une destinée divine. Alléluia! Et Paul le dit, si vous croyez en Jésus uniquement pour ce monde, vous êtes les plus malheureux du monde. Alors je précise, Paul, c'est pas moi qui le dis, comme ça je ne me fais pas lyncher, d'accord? C'est Paul. C'est Paul. Alléluia! Eh bien, quand le Seigneur vient... Ah oui, c'est bon, c'est passé. Avance, ça va, ça va. C'est bon, c'est passé. Voilà, c'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est passé. Vas-y, avance, avance. Avance, avance, avance. Jésus, alléluia, avance, avance, je l'ai dit. Je l'ai dit. Alléluia. Il y a un vent nouveau qui vient sur la terre. Vas-y, envoie sur celle-là. Bon. Oublie tout. il y a un vent nouveau qui vient sur la terre. Et vous savez, le vent est utilisé par Dieu. C'est lui qui crée. Lisez les psaumes, vous verrez. Dieu a créé le monde, Dieu a créé les vents. Il y a des vents que Dieu utilise, ce sont les vents contraires. C'est pour attaquer l'ennemi, c'est pour manifester sa malédiction. C'est pour, parce que de Dieu sort la bénédiction et la malédiction. Et l'ennemi veut créer une confusion. Il veut te faire croire que la malédiction, c'est lui qui a le pouvoir. Il n'a aucun pouvoir sur la malédiction. Et Jésus a enseigné ses disciples en disant, je vais vous montrer qui vous devez craindre. N'ayez pas peur de Satan. C'est pas lui qui tient la malédiction. Celui qui tient la malédiction, c'est Dieu. Et vous aviez à l'époque sur le mont Ebal, l'autel de Dieu, avec les noms des tribus, ce lieu était sanctifié. Et pendant toute la journée, vous avez des sacrificateurs de tribus qui proclamaient les malédictions sur le peuple, les malédictions, 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 toute la journée. Et vous avez de l'autre côté, le mont Ebo, où là, il y avait le même lieu saint avec les sacrificateurs. Et toute la journée, les tribus proclamaient la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Alléluia! Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que quand l'homme a décidé de quitter le plan de Dieu, l'homme est venu, non pas dans le monde de Dieu, c'est le monde que l'homme a choisi. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans son monde à lui. C'était le jardin d'Éden, oui ou non, pour ceux qui y ont lu. Voilà. C'est cet Éden-là. C'est-à-dire dans sa présence, esprit, âme et corps. C'est là que l'homme vivait. Et puis quand l'homme a décidé de vivre non plus sous l'amour du Père, que dit Dieu? Mais tu es devenu poussière, tu as choisi ce monde. L'art de la connaissance du bien et du... Voilà. Et on n'est pas dans le monde de Dieu. J'entends les gens qui disent, ouais, mais si Dieu était bon, eh bien, il n'aurait pas permis ça. Mais oui, mais t'es pas dans le monde de Dieu. Il peut rien faire dans ce monde. C'est le monde que l'homme a choisi. Et Jésus dit, c'est le prince de ce monde. Et aujourd'hui, il va être jugé. Et quand tu prends, il y a des gens qui disent, oh, parce que je fais pas de méchanceté, donc je suis bien. Mais non, Dieu a dit, si tu prends de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc si tu es élevé dans un milieu, dernièrement j'avais quelqu'un qui a fait des cambriolages, qui a participé, bon bref. Eh bien, je dis, ton environnement t'induit dans le mal. Mais tu es aussi coupable pour Dieu que quelqu'un, si la même personne avait vécu dans un lieu de noblesse, dans un lieu de bien. Faire le bien n'amène à rien pour Dieu. Tu peux faire le bien et mourir. Parce que Dieu a dit, tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourra, il n'a pas dit, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien, tu vivras. Si tu manges de la connaissance du mal, tu mourras. Et pendant tout l'Ancien Testament, la seule chose que fait Dieu, c'est de révéler à l'homme qui se trouve sur cette terre de mort et de malédiction. Et la loi est une malédiction. Et c'est pour ça qu'elle révèle la malédiction, dit Paul. Elle est parfaite parce qu'elle sort du cœur, elle sort de la bouche de Dieu. Mais elle n'est pas parfaite pour amener au salut. Elle ne fait que déclarer la malédiction sur ta vie. Et Jésus dit, maudit celui qui vit par la loi. La foi n'existait pas avant. Et Dieu ne voulait avoir aucune communion avec l'homme. Aucune. Lisez Hébreux, il lui dit, le Saint-Esprit ne voulait avoir aucune communion avec l'homme. Jusqu'au moment où Jésus vient, alléluia. Et pendant tout ce temps, Dieu commence à préparer le cœur. Au début, il se présente comme El Elyon. C'est le Dieu très haut. D'accord. Bon. Après, c'est Dieu Abraham, Isaac et Jacob. Et quand il se présente à Moïse, il dit à Moïse, maintenant, je vais me faire connaître et c'est toi qui vas me révéler par l'Éternel. Parce que tes ancêtres, ils ne m'ont pas connu sous le nom de l'Éternel. Et Moïse va révéler le nom de l'Éternel. Et ce nom de l'Éternel va aller jusqu'à Jésus. Parce que Jésus révèle un nom qui n'a jamais été révélé de la part de Dieu. Paul dit c'est le mystère que Dieu a gardé pendant toutes ces années. Et c'est le nom du Père. Alléluia. Le nom du Père. C'est un nom merveilleux. C'est un nom qui dépasse tout nom. Et Jésus, quand il sort du tombeau, il dit, va dire à mes frères, va leur dire que je vais vers mon Dieu. Enfin, Jésus retrouve son Dieu. Et je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Et je vais vers mon Père qui est votre... Alléluia! Comment Jésus nous enseigne à prier? Notre Père, bravo! Tous les noms qu'il y avait avant, El Shaddai, etc. Tout ça présente des angles de Dieu. Mais Dieu dit dans l'hébreu, j'ai choisi. Avant, je parlais par des prophètes, mais voici maintenant qui parle de moi, c'est Jésus. Jésus parle de moi. Mon fils bien-aimé, vous savez ce qu'il y a de différence entre adorer Dieu et prier le Père ? Il y a une grande différence. Quand tu adores Dieu, tu es une créature. Tu n'existes pas pour Dieu. Tu n'es qu'une créature. Voilà, quand tu adores le Père, tu n'es plus une créature. Tu es son fils. Tu as le même ADN, le même cœur qui bat. C'est pas pareil. La relation est différente. Et il y a des gens qui viennent à Jésus, mais qui vivent Jésus comme en étant une créature. Mais Jésus dit non, c'est fini. Le premier souffle qui vient sur la terre, et si vous le lisez dans Actes chapitre 2, et un vent impétueux arrive, c'est le souffle du Saint-Esprit qui vient sur la terre et qui saisit des hommes qui 15 jours avant avaient renié Jésus. 15 jours avant, ils l'avaient renié. Et Jésus disait à Pierre, parce que Pierre disait, Jésus, je veux te donner ma vie. Et Jésus dit, Pierre, non, tu vas me renier. Satan t'a réclamé, Pierre. Mais moi, j'ai prié pour que ta foi tienne. Et quand tu seras converti, eh bien, tu conduiras tes frères. Attendez, Pierre est baptisé. D'accord ? Il a vécu 3 ans avec Jésus, plus de 1036 jours ensemble. Il a fait des guérisons. Et Jésus lui dit, tu n'es pas encore converti. Quelle claque, hein ? Ce que le Seigneur veut faire comprendre, c'est que de par notre nature, tu peux être près de Jésus, faire des miracles, faire tout ce que tu veux. Souvenez-vous, quand Jésus dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentrent dans le royaume. Et les gens à qui ferment le ciel, c'est à des gens qui ont guéri, chassé des démons, fait des résurrections, oui ou non ? D'accord ? Donc ce n'est pas ça le signe. Tu peux servir Dieu et pourtant être même pas nommé par Dieu parce que tu n'es pas de sa famille. Voilà pourquoi Paul le dit très bien. Paul dit ce qui compte. Ce n'est pas nos manières de faire, nos petits gris-gris, circoncis, on prie comme ça, on fait nos cérémonies. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Parce que si tu n'es pas une nouvelle créature, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu n'est pas venu en toi, tu vis de la religion, tu peux choisir ta religion. Mais naître de nouveau, ce n'est pas toi qui le fais. C'est Dieu qui le fait. Et c'est ça le Père. Et le Père le montre. Parce qu'il est venu chercher, comme tu le disais tout à l'heure, il est venu chercher Jésus dans l'enfer, dans les ténèbres. Le premier homme à avoir vécu la repentance pour nous, c'est Jésus. C'est lui qui vit la repentance pour nous, conduit par le Saint-Esprit. Nous, on ne sait pas ce que c'est que la repentance. On ne connaît même pas Dieu. Comment tu veux connaître la repentance ? Tu ne connais même pas tes péchés. Tu connais juste un peu. Et David dit, mais qui connaît nos péchés ? Personne ne connaît ses péchés. Comment tu veux conduire ta repentance ? Et la grâce de Dieu, c'est que c'est l'esprit de repentance qui vient d'en haut. Jésus est le premier à l'avoir vécu. Voilà pourquoi il dit « J'étais mort. J'étais mort. J'étais maudit. J'ai affronté Dieu. J'ai affronté la loi. Mais maintenant, mon Dieu est devenu un père parce qu'il est venu me chercher dans la mort. Et s'il est venu me chercher dans la mort, il vient te chercher. Il vient te chercher. Et écoutez bien, il ne vient pas te chercher parce que tu l'obéis. Tu es mort. Jésus a dit, les morts entendront ma voix. Tu as essayé de parler à un mort ? Vas-y, avant qu'il se lève. Hein. Et combien de temps j'attends ? Ah oui, mais il faut que je fasse ça pour Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, va m'aider. Non, le premier vent du cadeau de Dieu qui vient souffler sur la terre, c'est que tu es un père à cause du sang de l'agneau. Il n'attend pas que tu l'aimes. Il vient te sauver. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Il vient et il met dans ta vie le Saint-Esprit. Et Paul le dit, si tu es enfant de Dieu, eh bien, Dieu met en ton cœur l'esprit de Jésus, Galates. Et c'est cet esprit en toi qui crie « Abba, Père », c'est pas marqué. Et c'est Georges qui crie « Abba, Père », c'est marqué. Et c'est l'esprit en toi qui crie « Voilà ». Donc c'est la vie de Jésus et c'est le premier cadeau, c'est le vent du Saint-Esprit. Parce que Dieu a un vent qui se manifeste en 4 vents. Et vous le lirez, je vais très vite là, mais je veux vous réveiller pour que vous après, allez dans l'Écriture. Ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Créez, creusez. Ce que je vous dis, c'est parce que Dieu m'a mis à part pendant 4 ans. Puis pendant 4 ans, le Seigneur m'a dit avec tous mes diplômes, reste ici. Et j'ai travaillé à ramasser des crottes de cheval. Mais pendant toute la journée, je lisais ma Bible. Et quand ce temps est fini, Dieu m'a dit, maintenant, vas-y. Et je vous l'ai montré. Il m'a redonné tous mes diplômes. Il m'a redonné encore plus haut que je peux. Mes amis, le Seigneur est vivant. Et il a soufflé en nous un premier vent. C'est le vent d'un Père qui t'aime. Un Père qui vient à toi. Un Père qui n'attend pas que tu sois sauvé. Un Père qui vient t'arracher à l'enfer. Une seule chose, c'est que tu te tournes et que tu dises, Jésus, que ton sang vienne à moi. C'est tout. Mais que tu laisses le sang. Mais c'est Dieu qui choisit son temps. Toi, tu ne peux pas dire, ça y est, je suis une nouvelle créature. Sur quoi tu te bases? Parce que tu l'as dit. Jésus a dit, né de l'esprit, il n'a pas dit, né de l'homme. C'est toi qui décides ta naissance. Dans l'histoire qu'on vient de lire, les gens étaient poussés par Jésus pour traverser la mer. Tu as choisi ta naissance? Tu es arrivé en disant, tiens, bah, je vais décider de naître en 1963. Non, c'est exactement cette histoire. Dieu te connaît avant qu'il t'amène sur la terre. Mais c'est lui qui décide de ta venue sur la terre. Et tout comme Jésus a poussé les disciples, allez-y, traversez. Je un jour viendrai vous rencontrer. Vous arrivez sur la terre. Mais Dieu a un rendez-vous pour te sauver, pour t'arracher et pour te faire rentrer dans la destinée que Jésus a gagnée pour toi. Il est merveilleux. Et le Seigneur dit, j'envoie un vent nouveau. Et ce vent nouveau, la Bible nous révèle qu'il y a 4 vents qui sortent du trône de Dieu. Le premier, c'est le Père. Le second, tu l'as dit, c'est l'amour. Un jour, Jésus se trouve avec un paralytique. On amène un paralytique. Et les gens, comme il y avait une foule, ils passent par en haut, voyez-vous. Ils ouvrent, c'est comme si là, il y avait un trou qui se faisait. Ouh, ce serait chaud, hein, Antoine. Et ils descendent le paralytique. Que dit Jésus? Jésus dit à ce paralytique, ah, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Et les gens bien pensants, ils disent, mais qu'est-ce que c'est ce blasphème? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Et Jésus dit, attendez, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou prends ton lit et marche. Vous avez essayé? Essayez. Mes amis, bien souvent dans nos vies, on proclame des choses spirituelles, mais on ne les voit pas venir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous manque un ingrédient crucial. Donc on va déclarer, oui, tes péchés sont pardonnés. Oui, mais tu restes toujours paralysé dans ta vie. Tu as toujours les mêmes problèmes. Tu n'avances pas dans ton métier. Tu n'avances pas dans ta relation avec ta femme. Et tout. Oui, mais mes péchés sont pardonnés. Oui, mais... Et d'autres qui sont, ah oui, mais moi j'essaye de changer ma vie. J'essaye de marcher. Je suis paralysé. Mais j'arrive pas à sortir de ma paralysie. Mais j'arrive pas à croire que mes péchés sont pardonnés. Vous voyez? Et Jésus dit, hé, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou prends ton lit et marche? Et Jésus, il dit, puisque vous avez besoin de savoir, eh bien je vous dis que maintenant, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés au nom. Vas-y, il ne dit pas au nom de Jésus, ça veut dire, c'est lui qui le fait. Lève-toi et marche! Et vous savez ce qui s'est marqué après le Saint-Esprit? Il a dit, le Saint-Esprit marque, les gens glorifiaient Dieu d'un tel pouvoir qui a été donné au... hommes, pas à Dieu. Et ça, c'est une grande confusion. La première fois que je vous ai parlé, c'est le pardon qui vient de Dieu, qui est donné à la croix. Et ça, Dieu le donne immédiatement. Mais il y a un pardon qui doit sortir des fils de l'homme, de nous. Ça, c'est un vent nouveau. On crie, Dieu vient faire quelque chose, mais Dieu dit, tant que tu ne pardonnes pas, tu es paralysé. Et Jésus, quand il sort du tombeau et qu'il va voir ses disciples, il dit, je souffle, lisez-le. Il souffle sur eux, recevez le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Ce que vous pardonnerez sur la terre sera... Bravo. Et ensuite, continuez. Ce que vous retiendrez sera... Bravo. Que dit Jésus dans la prière, notre Père? Père, pardonne-nous nos offenses comme nous à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce qu'il ajoute? Si vous ne pardonnez pas aux autres vos offenses... Est-ce que le Père le fait pour vous? Voilà. faut pouvoir pardonner. Et j'entends des gens qui disent « Ah, mais j'essaie de pardonner. » Oui, ça ne marche pas. J'ai essayé moi aussi. Tant que tu restes dans ta création, ça ne marche pas. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'es plus Georges de cette terre. Tu deviens fils de l'homme. Et c'est là que Dieu dit « Pardonne, pardonne !» Ah, j'en ai des témoignages, et certainement vous, mais il y en a un qui m'a marqué dernièrement. Je travaille avec l'église qui est en Iran, persécutée. Dès que tu deviens chrétien, ta tête est mise à mort. Et cette jeune femme, elle a 7 ans. Depuis 7 ans, elle est violée par l'ami de son père. Et elle n'en peut plus. À 15 ans, elle va voir son père. Papa, il arrête pas de me violer depuis. Et elle se prend des baffes. Elle est envoyée dans un trou. Elle dit, mais tu mets la honte sur ma famille. Elle a essayé 4 fois de se suicider. La 4e fois, elle va vers le palan qui est comme ça. Elle met la corde. Et avant de se jeter, elle a un cri. Oh Dieu, pourquoi tu n'existes pas? Pourquoi tu ne m'as pas aidé? Et au moment où elle se jette, elle se trouve sur l'épaule de Jésus. Et elle dit, Jésus. Elle s'est immédiatement dans son cœur. Elle a été élevée dans le courant. Mais quand on est sauvé, Jésus n'a pas attendu que tu naisses. Ça fait 2000 ans qu'il t'a sauvé, qu'il t'a créé. Et dans son être, de suite, le salut est là. Elle est déjà sauvée. Et elle dit, Jésus, ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, ne me retombe pas. Elle ne parlait pas du coup. Elle parlait de ce que l'autre lui faisait. Et Jésus dit, parce que tu m'as appelé, je t'abandonnerai jamais maintenant. Et des années après, cet homme est mort. Son père est mort. Et à l'enterrement de son père, arrive cet homme. Et elle dit à Jésus, je ne peux pas. Je m'en vais, je ne peux pas l'affronter, Seigneur. Et le Saint-Esprit en elle lui dit, laisse-moi faire, je veux le pardonner. Et elle a été conduite. Elle a accepté de laisser l'homme entendre le pardon de Jésus pour lui. Ça, c'est être fils de l'homme. Parce que dans la définition homme pour Dieu, c'est l'homme et la femme. Genèse chapitre 3. Ce n'est pas mâle et femelle. C'est l'homme et la femme. Et Jésus qui est homme avec son Église, c'est ça l'homme pour Dieu. Et quand nous prenons du Seigneur, le Saint-Esprit prend nous, eh bien on rentre dans cette dynamique de fils d'homme et on pardonne, alléluia! Et c'est ça le pardon. Il n'y a pas un jour où on n'est pas confronté au besoin de pardon. Moi, je fais mal à ma chérie alors que je l'aime. Elle me fait mal aussi, hein, chérie. On est ensemble, hein. On se fait mal. Combien de fois on s'est fait mal les uns les autres? Je regrette, j'ai fait mal à Antoine. On s'est fait mal. Mais le Seigneur me dit, quand tu es fils de l'homme, libère le pardon. Sinon, tu vas être paralysé. Tu ne vas même pas aller vers les autres. Ou ta vie va être bloquée. Et il y a beaucoup de gens dans leurs finances, dans leur travail, dans leur famille, ça ne se développe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas dans la puissance du pardon. La puissance du pardon, c'est pas « Oh, j'ai envie de le pardonner, tiens, ça va me faire du bien. » C'est pas ça. Tu ne peux pas pardonner, comprends-le. C'est pas dans tes forces, c'est pas dans ta création. Il t'a fait mal, point. Et Dieu ne te demande pas d'être un béni, oui. Oh, il m'a fait mal, mais ça fait du bien. Oh, il m'a fait mal, mais ça fait du bien. Encore, tu peux continuer. C'est pas ça, Dieu. Et quand Jésus dit « Tends la joue », c'est dans un contexte. Moi, mes enfants, je leur disais, quand ils venaient de la cour de l'école qui s'était fait, j'ai dit, il a eu mal? Valérie, t'es outrée. Il a eu mal? T'as rien fait? C'est la dernière fois que tu me vois que l'autre, il t'a mis un coup de poing et t'as pas répondu. Hein. C'est la dernière fois. Hein. Et Valérie, t'es outrée. Mais c'est ça, les gens. Je dis, chérie, un jour, ce gars, qui est mon fils, il va falloir qu'il se batte et protège sa femme et ses enfants, d'accord? Jésus est un homme viril. Et il y a des femmes qui sont plus viriles que les hommes. Parce que ça, elles ne savent pas faire. Elle touche pas la drogue, elle touche pas. C'est ça, être viril. C'est être beaucoup plus fort que l'ennemi. Mais je peux vous dire que Dieu nous garde aussi. Et là où j'étais content que Dieu me garde, c'est un jour, je reviens avec ma femme. Non, mais ma fille, j'avais la Bible. On revenait d'une réunion, on était en Normandie. Tout à coup, une voiture nous dépasse. Ils nous bloquent au milieu devant tout le monde. 5 gars sortent pour nous casser la figure. Je ne savais pas ce qu'on leur avait fait, mais on va le mater, on va le détruire. Ils commencent, ils viennent vers moi. Moi, je baisse la fenêtre. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'il y a? À ce moment-là, ma fille, la porte s'ouvre. Elle dit, oh, elle se prend une claque, les lunettes tombent. Et moi, je me tourne, je prends un coup de poing. Et je suis là. Et j'ai fait l'armée. Je serais me battre contre 1, 2 personnes, mais 5. Je n'ai pas le niveau. Le boss, je ne l'ai pas tant. Et je me dis, mais même si j'y vais, qu'est-ce qu'il a dû à ma fille? Ça va tellement vite. Mais Dieu a dit, je n'abandonnerai pas mon sang. Et alors, la seule chose qui me vient, je prends la Bible. Je dis, mais pourquoi tu veux que je te fasse du mal? Regarde, je suis pasteur, la Bible. à l'instant, mes amis, à l'instant, devant tout le monde, à l'instant, il se recule, il dit, lâchez, il vient, il demande pardon à ma fille, il se met au milieu de la rue, et dit, oh, est-ce que Dieu peut me rencontrer? Et cet homme qui voulait nous tuer, il est en train de faire une prière de repentance. Et moi, j'avais tellement les foi que je ne suis pas sorti pour imposer les mains au nom de Jésus. Non, je suis parti, je me suis barré. Ben ouais, j'avais pas la foi à ce moment-là, j'avais les foi, c'est pas pareil. Mais le Seigneur nous sauve, mes amis, mais le pardon, il a reçu le pardon. Et je crois qu'un jour, je le reverrai. Donc, c'est midi moins 10, je vais arrêter là. Les deux autres vents, travaillez-les, je vais vous le dire. L'autre vent, c'est le vent de la destinée. C'est-à-dire que Dieu a une destinée pour toi. Ça, c'est le quatrième vent. Et tu le liras dans Élie. Élie, il passe par la dépression. Il ne sait plus où il en est. Il a essayé des choses. Il a essayé, comme nous, un bon chrétien. Oh, j'essaie de faire mon église. J'essaie de faire des trucs. Et puis tout foire. Les copains ne sont pas avec moi. Ou moi, j'ai vécu ça. Hein. Je l'ai vécu. On ne sait plus où on en est. Et on dit, non, c'est pas pour moi. Attends, je vais faire autre chose. Hein. Et on est dans notre caverne. Mais là, la différence, ce n'est pas un vent impétueux qui vient te chercher. Élie dans la caverne et Dieu dit, je passe devant toi. Il y a un vent qui vient, qui passe, qui arrache tout. Mais Dieu n'est pas dans le vent. Dieu est dans le murmure doux et léger. Chaque fois que Dieu veut te parler de ta destinée, ce ne sera jamais dans un vent. Ce sera avec amour. Viens, parle ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, Élie est reboosté et est reparti. Mes amis, quand tu ne sais plus où tu en es, assieds-toi près de Dieu. Marie te montre le chemin. Marthe et Marie. Marie, elle était au pied de Jésus et ça, elle n'a pas perdu. Et le troisième vent, c'est le vent de l'impossible. Ne prends jamais un projet qui était possible. Notre vie, depuis qu'on est avancé dans le Seigneur nous a donné une mission. On a une mission, on est en chemin, une dynamique prophétique, une dynamique. On est en chemin. Et quand le Seigneur commençait à nous dire maintenant, ben, il a fallu lâcher. Aujourd'hui, vous avez un homme, il a lâché sa maison devant Jésus. Et quand on est venu ici, le Seigneur m'a demandé de lâcher ma sécurité financière. J'étais un rare freelance à avoir un CDI, comprenez. Et je l'avais, j'ai lâché. L'impossible, parce que tu ne peux pas vivre ta foi sans l'impossible. Sinon, tu ne vis pas une foi, tu vis une religion. L'évangile est une puissance de vie. Alléluia. Amen. Et c'est à celui qui a reçu la lumière de Dieu, Jean nous dit, il a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi il y a besoin d'un pouvoir? Parce que ce n'est pas possible de le vivre. Pourquoi il y a besoin d'un pouvoir? Parce que tu es confronté constamment à l'impossibilité. L'impossibilité que les gens changent. L'impossibilité que tu changes. L'impossibilité que les autres te pardonnent. L'impossibilité que tu grandisses. Mais le Seigneur t'appelle à l'impossible. Et le vent qu'il te donne, c'est celui de Moïse. Il te dit, ouvre la mer. Et quand Moïse lève le bâton, Dieu fait souffler un vent. Alléluia! Alléluia! Alors je vais donner ces quatre actes. On pourra en parler toute la journée, mais je m'arrête. Ce que je voudrais vous demander maintenant, vous entendez, il y a quelque chose en vous qui se réveille. Peut-être que tu as besoin simplement de rencontrer le Père. Et quand tu rencontres le Père, c'est des paroles de prophétie qui viennent dans ta vie. C'est des paroles où le Père te parle de promesses. Amen, Amen. Mais le Père sait très bien que ces promesses, tu ne peux pas les accomplir. C'est pour ça qu'il ne t'en parle pas. Dans l'Ancien Testament, c'est simplement des promesses. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que Jésus est la promesse accomplie. Ne cherche pas à vivre les promesses, à atteindre les promesses, ce n'est pas possible. Libère ce que Dieu te donne jour après jour. C'est ça que Dieu te donne. Il te le donne à ta mesure. Il y a des gens qui veulent déjà remplir le ciel ou ouvrir la mer et ne sont même pas capables de serrer la main au mendiant qui est à côté. Vas-y quoi. Commence à libérer les promesses de Dieu. Et quand tu vois que tes gestes, que tu vois, c'est les foi, c'est sur cette foi que Dieu te demande de grandir. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu n'as pas, que tu veux atteindre. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est les foi et la croyance. La foi, c'est quelque chose qui t'est donné, même tout petit. Mais même cette petite chose peut changer la montagne. Si ça fait des années que tu es en colère, un non-pardon, peut-être que ce matin, la seule chose que Dieu te demande, c'est vas-y, une simple lettre, petite lettre. Je pense à toi. Peut-être que c'est le maximum que tu peux faire. C'est sur cette foi-là que Dieu va bouger la montagne. C'est sur ça. Et quand tu l'auras fait, tu auras la puissance, après, peut-être de faire un colis. Mais ne t'attends pas à faire le colis avant de faire la lettre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Dieu qui te donne petit à petit. Amen. Amen. Est-ce qu'on se lève? Alléluia. Levons-nous et venons ensemble devant le Seigneur. Amen.